Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de notre programme. L'actualité de l'Église de cette édition sera notamment marquée par le compte-rendu des activités du pape de la semaine. De nouvelles améliorations sur le plan respiratoire et moteur ont été enregistrées cette semaine, ainsi que sur l'usage de sa voix. Poursuivant donc sa convalescence, François continue de suivre la vie de l'Église, qui célèbre d'ailleurs du 5 au 6 avril le 7e des grands événements de l'année jubilaire, le jubilé consacré aux malades et au monde de la santé. Dans la suite de cette édition, nous nous rendrons également au Rwanda où l'Association des conférences épiscopales de ce pays et du Burundi ont déploré dans un communiqué publié mardi à l'issue de leur première assemblée plénière annuelle la fermeture de beaucoup d'églises paroissiales depuis 2024. Après l'actualité sociopolitique africaine et la méditation avec les lectures du 5e dimanche du temps de carême, nous accorderons la parole à notre invitée du jour, Anne-Christelle Nekouressi, paroissienne de Notre-Dame de la Nativité d'Angré, dans l'archidiocèse d'Abidjan en Côte d'Ivoire, qui nous livrera son témoignage d'espérance à l'occasion du jubilé des malades et du monde de la santé.
À Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
Chers auditeurs, une fois de plus, bienvenue à cette édition que nous ouvrons par la semaine du pape, le compte-rendu des activités du Saint-Père de cette semaine. Parole à Stanislas Kambashi.
Commençons par l'état de santé du pape François qui est en convalescence depuis le 23 mars dans sa résidence au Vatican. Selon un communiqué de la salle des presses du Saint-Siège vendredi, des nouvelles améliorations ont été enregistrées sur les plans respiratoires et moteurs, ainsi que sur l'usage de la voix. L'utilisation de l'oxygène se poursuit aussi avec une réduction. Ce dimanche 6 avril, la prière de l'Angélus pourrait se dérouler différemment par rapport aux semaines précédentes. L'année jubilaire en cours nous appelle à devenir des pèlerins d'espérance tout au long de notre vie. Des mots du pape François aux pèlerins slovaques dans son message à l'occasion de leur pèlerinage jubilaire national vendredi. Dans son message aux participants au pèlerinage jubilaire des Charis, le Service international pour les renouveaux charismatiques catholiques, message publié jeudi, le pape François soulignait l'importance de la paix de l'esprit comme condition essentielle pour surmonter les divisions, tant au sein de la famille qu'entre les nations. Ce pèlerinage de Charis se tient du 4 au 6 avril. Mercredi, le pape n'a pas tenu l'audience générale, mais François a mis à disposition les textes de la catéchèse préparée comme la semaine passée. Le Saint-Père poursuit son cycle des catéchèses sur les thèmes « Jésus-Christ, notre espérance », la vie de Jésus et ses rencontres dans l'Évangile. Même si nous pouvons nous sentir perdus et sans espérance, Jésus ne passera pas sans jeter sur nous son regard de miséricorde et de pardon, comme il l'a fait pour Zachée, a écrit le Saint-Père. Mardi a été rendu public l'intention des prières du pape pour les mois d'avril. Le Saint-Père nous invite à prier pour que l'utilisation des nouvelles technologies ne remplace pas les relations humaines, mais respecte la dignité des personnes et aide à affronter les crises de notre temps. Toujours mardi, le Saint-Père a accepté le renoncement au gouvernement pastoral du diocèse de Mzuzu, au Malawi, présenté par Mgr John Alphonsus Ryan et a nommé évêque de Mzuzu. Monseigneur Johann Susgo Nirenda, qui était auxiliaire du même siège. Dans un message adressé aux participants à la deuxième assemblée synodale de l'Église italienne mardi, le pape François a rappelé que l'Église est faite du peuple des dieux qui marchent ensemble et que la joie chrétienne ne vient pas des solutions faciles aux problèmes, mais de la certitude que le Seigneur ne nous abandonne jamais.
Merci Stanislas. Plus de 20 000 personnes sont à Rome à l'occasion du jubilé des malades et du monde de la santé. Parmi eux, 70 personnes engagées dans l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, venues de différents pays. Pour ces aides-soignants, infirmiers ou hospitaliers, venir à Rome pour la démarche jubilaire est l'occasion de faire grandir l'espérance afin qu'ils puissent l'apporter auprès des personnes souffrantes, notamment les malades qui viennent en pèlerinage dans le sanctuaire marial du sud de la France.
L'année sainte, l'année jubilaire, donc je suis là parce que je suis une petite chrétienne et que voilà, j'espère toujours progresser dans ma foi et le monde change. Mais je crois qu'au fond de notre cœur, rien ne change. Il y a cette foi.
J'attends évidemment personnellement d'être relancé aussi dans la foi et donc dans l'espérance qui en découle. Mon désir le plus profond, c'est que l'ensemble des hospitaliers présents soient revigorés par ce pèlerinage et puissent entrer avec encore plus de dynamisme, d'entrain, de joie de servir les malades qui, du reste, vont officiellement commencer la saison des pèlerinages ce soir même à l'occasion de la procession mariale.
Quand on parle d'espérance, quand on témoigne, quand on vit ce que l'on vit ici à Rome pour cette année sainte, tourner vers cette vie éternelle que nous attendons, cet amour du Christ, et puis ce royaume que nous vivons déjà en accueillant les plus fragiles, c'est déjà aussi ouvrir une fenêtre sur l'éternité.
Des propos recueillis par Jean-Benoît, signalant que le jubilé dédié au monde de la santé s'achèvera le dimanche 6 avril par la messe sur la place Saint-Pierre à 10h30, présidée par le propréfet du dicastère pour l'évangélisation, Mgr Rino Fisichella. L'Association des conférences épiscopales du Rwanda et du Burundi, ACOREB, a déploré la fermeture au Rwanda de beaucoup d'églises paroissiales et des centrales de l'Église catholique depuis 2024. Dans un communiqué publié à l'issue de leur première assemblée plénière annuelle qui s'est tenue au centre Saint-Joseph de Kibungo au Rwanda du 30 mars au 1er avril, les évêques de l'ACOREB ont demandé aux autorités rwandaises la réouverture au moins des églises paroissiales et des centrales qui remplissent les conditions requises. Sur le plan sociopolitique, ils ont également déclaré être peinés par la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Suivant les précisions de Jean-Benoît Harel.
En application d'une loi de 2018 destinée à lutter contre la prolifération des lieux de culte et d'églises nouvelles, plus de 8000 lieux de culte, églises chrétiennes et mosquées sont fermés depuis lors. Selon les autorités, c'est pour non-respect des règles de santé et de sécurité. Dans ce contexte, les évêques de l'ACOREB ont demandé aux autorités rwandaises, dans un communiqué publié à l'issue de leurs assises, la réouverture, au moins, des églises paroissiales et des centrales qui remplissent les conditions requises. Sur le plan sociopolitique, ils ont salué le début de négociations entre les dirigeants de leurs deux pays pour normaliser leurs relations bilatérales tendues qui ont entraîné la fermeture de leurs frontières terrestres en 2024. Les prélats burundais et rwandais ont par ailleurs déclaré être peinés par la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, marquée par des pertes en vie humaine et des dégâts matériels, ainsi qu'un afflux de déplacés et de réfugiés dans la sous-région des Grands Lacs et les pays voisins. Ils ont également exprimé leur compassion et leur solidarité avec les familles sinistrées, leur assurant de leur proximité religieuse dans l'espoir d'un retour rapide de la paix.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le Mali, le Burkina et le Niger, qui ont quitté la CEDEAO, sont libres de leur choix, a déclaré vendredi le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, assurant avoir tout fait pour les faire revenir dans l'organisation sous-régionale. En janvier, les trois pays sahéliens ont quitté la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qu'ils estiment notamment inféodée à la France et ont formé l'Alliance des États du Sahel. Depuis juillet 2024, le président Faye a été désigné médiateur par la CEDEAO auprès de ces trois États dirigés par des militaires. Malgré leur retrait, il a toutefois souligné que le Mali voisin ainsi que le Burkina et le Niger restent des partenaires privilégiés de longue date. La Tunisie a démantelé vendredi des camps de fortune où vivaient des milliers de migrants venus d'Afrique subsaharienne après une virulente campagne sur les réseaux sociaux qui réclamait le départ de ces personnes en situation irrégulière. Les camps, installés au milieu d'oliveraies dans les régions d'El Amra et Jebiniana, dans le centre-est du pays, étaient devenus une épine dans le pied des autorités et suscitaient un fort mécontentement chez les habitants des villages environnants. En tout, une vingtaine de milliers de migrants, divisés en plusieurs camps informels, avaient érigé des tentes dans les champs, a dit vendredi soir le porte-parole de la garde nationale, Oussem Eddine Jebabli. Le père jésuite Rigobert Kyungu nous introduit à la méditation avec les lectures du cinquième dimanche du temps de carême de l'année liturgique C.
Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le cinquième dimanche de carême de l'année liturgique C. Ces lectures nous invitent à voir toutes choses nouvelles dans le Christ mort et ressuscité, en qui Dieu déploie toute sa puissance pour notre salut. Dans la première lecture, Isaïe annonce comment le Seigneur aidera le peuple d'Israël à passer de l'esclavage de l'Égypte à la liberté de la terre promise. Dieu, dans sa puissance, frayera un chemin dans le désert et y créera des torrents d'eau. Il demande à son peuple d'oublier son esclavage du passé pour marcher résolument vers la terre promise. De la même manière, le Seigneur désire nous faire sortir de l'esclavage de nos péchés et nous guider à la vraie liberté des enfants de Dieu. Saint Paul, dans la deuxième lecture, rend témoignage de sa propre expérience. Il regarde ses honneurs du passé comme étant une perte face à la découverte d'un bien beaucoup plus grand qui dépasse tout, à savoir la connaissance de Jésus-Christ. Saint Paul est décidément un homme changé. Il s'est laissé guider par Dieu et a su laisser la puissance de Dieu agir en lui. Désormais, il est un homme transformé. Puissions-nous aussi l'imiter pour quitter nos vieilles habitudes et passer à la vie nouvelle, celle de la connaissance du Christ Jésus et tout ce qu'implique une telle connaissance. L'Évangile nous rapporte l'épisode d'une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, puis amenée à Jésus pour être jugée conformément à la loi de Moïse. Mais refusant de se porter en juge, Jésus renvoie les accusateurs à leur propre conscience et leur demande de s'examiner d'abord eux-mêmes avant de juger la femme. Jésus ramène ainsi le débat à un autre niveau. En effet, il apprend aux Juifs et à nous aussi qu'il n'est pas correct de ne voir le mal que chez les autres. Ce qui importe pour Dieu, c'est le regard de vérité que chacun est appelé à avoir par rapport à sa propre vie. Jésus dévoile ainsi l'hypocrisie des Juifs, et la nôtre aussi, lorsque nous nous évertuons à critiquer, à juger et à condamner les autres. Il remet aussi en question la justice partisane des Juifs qui avaient déjà condamné la femme sans aucun procès équitable. En outre, Jésus reproche à la société juive son esprit de discrimination à l'égard des femmes. Et sur ce point, nous devrions nous aussi fournir encore beaucoup d'efforts pour améliorer les choses dans nos sociétés et dans l'Église. Finalement, c'est le don de la miséricorde que Jésus offre à cette femme, la délivrant ainsi du poids des accusations de la part des autres. Il pardonne et efface tous ses péchés en lui donnant la chance de repartir et en l'encourageant à ne plus retourner à sa vie passée. « Va et désormais ne pêche plus » est une parole qui encourage et qui engage dans un avenir plein d'espérance. C'est ainsi que Dieu agit aussi envers nous. Ainsi, il nous invite à faire de même pour les autres, sans les condamner pour toujours en fonction de leur passé. En effet, Dieu permet toujours d'entrevoir le futur avec espérance, quel qu'ait été notre passé. Rien n'est jamais perdu pour Dieu. Ainsi, dans l'exercice de la miséricorde, il nous faudrait toujours donner des chances à l'avenir, sans nous clouer mutuellement dans le passé. À la lumière de ces lectures, demandons au Seigneur de renouveler notre regard envers nous-mêmes et envers les autres, afin d'œuvrer pour des lendemains meilleurs grâce à la connaissance intime de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre salut. Amen.
Dans un fauteuil roulant du fait de la polyarthrite rhumatoïde depuis l'adolescence, la catholique ivoirienne Anne-Christelle Nekouressi dit avoir séché ses larmes de douleur et de colère contre Dieu pour vivre avec lui une expérience d'amour et d'espérance. À l'occasion du jubilé des malades et du monde de la santé, qui a lieu du 5 au 6 avril à Rome, la quadragénaire a bien voulu nous témoigner son expérience avec le Seigneur.
Je suis dans un fauteuil roulant. Sans l'aide de quelqu'un, je ne peux pas me mouvoir. Il faut quelqu'un pour m'aider à faire beaucoup de choses.
Quelle est votre situation matrimoniale?
Malheureusement, je n'ai pas d'enfant. Parce que la maladie a commencé très tôt à l'âge de 12 ans, 13 ans. Je n'ai pas d'enfant. Je ne suis pas mariée.
Et votre famille?
La famille a toujours été là pour moi, beaucoup même je dirais, parce que si je dis non, ça serait être ingrate. La famille a toujours été là pour moi, ils m'assistaient jusqu'à aujourd'hui.
Comment aviez-vous vécu ces tout premiers moments de la maladie?
Il faut dire que ça n'a pas été facile. Donc la maladie, quand ça a commencé, il y a là, je marchais encore, mais ça commençait à prendre des articulations. Là, je partais encore à l'école. Et au niveau des regards, c'est-à-dire que c'est le regard des autres, les personnes du dehors. Quand je pars comme ça au rendez-vous, les gens me fixent dans les yeux jusqu'à ce que j'arrive à leur niveau. J'étais devenue aigrie, ça m'énervait, même si je ne leur répondais pas, mais ça m'énervait. Surtout le regard du dehors. Mais au niveau de la famille, comme je suis leur enfant, ils m'acceptaient tel que je suis. Jusqu'à présent, ma soeur. Il y a d'autres mecs qui ne me voient pas comme malade. Mais il ne faut pas se voir la face pour dire qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des fois, même quand j'appelle quelqu'un pour l'envoyer, pour demander un verre d'eau, soit la personne, il faut me donner ça dans l'immédiat. Au fur et à mesure, les années passent, la personne peut traîner les pas. Et quand la personne traîne les pas, moi, ça m'énervait. Après, j'ai compris qu'il faut m'adapter. C'est pas tout ce quand tu veux quelque chose, tout le temps, tu donnes tout ceci. Donc, il faut s'adapter. Donc, j'ai commencé à m'adapter. Sinon, au départ, j'étais devenue aigrie. Je n'ai pas quitté les bancs parce que je voulais quitter. Mais la maladie m'empêchait de continuer mes études.
Qu'aviez-vous ressenti véritablement tout au fond de vous?
Avant, j'étais en colère contre la maladie, surtout contre la maladie. En colère contre Dieu, oui. Parce que je me dis que Jésus a vécu sa passion, mais lui, il est Dieu. C'est pourquoi il a pu supporter tout ça, mais moi, je ne suis pas Dieu. Donc, ça me révoltait un peu. Mais après, qu'est-ce qui m'apaisait? Parce que malgré toutes ces douleurs, j'avais une lumière d'espoir au fond de mon cœur. Je sentais une étincelle qui était une force pour moi. Donc, je me disais que je n'étais pas abandonné de Dieu. Même dans mes révoltes où j'étais devenue aigrie, je sentais cette lumière d'espoir en moi. Et donc, c'est ce qui faisait ma force, en fait. Parce que j'ai rencontré un prêtre qui, aujourd'hui, mon père, sur Dieu, je l'ai rencontré en 2023. Et je me suis confiée à lui. Et puis, il m'a dit d'accepter la maladie. Tant que je n'ai pas accepté la maladie, je serai révoltée et puis ça va me faire souffrir. Et c'est dans les prières au fur et à mesure que j'ai accepté la maladie, que comme l'a dit, de l'accepter et puis d'offrir ma souffrance au Seigneur pour prier pour les malades, pour d'autres cas. Et c'est comme ça au fur et à mesure que j'ai accepté la maladie, pas que je me plais dedans, mais je l'ai accepté. Et puis j'ai commencé à prier pour d'autres personnes, pour des personnes qui sont malades, pour des personnes en difficulté en tout cas. Avant que je ne rencontre le prêtre, le Seigneur me montrait déjà des personnes qui avaient des cas plus graves que moi, soit des estropiés, pour me dire que oui, il y a des gens qui travaillent plus difficile que pour moi. Ça m'a aidé à surmonter ça, à accepter la maladie, à prier pour les autres. Et puis bon, à me donner une certaine joie. Et même quand j'ai des douleurs, j'avais aussi des brûlures entre les creux des mains, tout ça. Je sentais en fait la présence du Seigneur quelque part. Voilà, c'est ce qui m'a donné de l'espoir.
Alors Christelle, peut-on dire qu'aujourd'hui, la maladie vous a plus rapproché de Dieu?
Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai eue avec cette maladie, je pense que ça m'a plus rapproché de Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait ma force. Si je n'ai pas Dieu, je craque en fait. Parce que quand je reste dans mon coin, mais je vois que j'ai encore plus mal. J'ai mal dans mon corps, j'ai mal dans mon cœur, ça ne m'arrange pas. Donc, ce qui serait mieux pour moi, c'est de plus m'approcher à Dieu. Et c'est ce que je fais jusqu'à maintenant. Donc, c'est Dieu qui est ma force. Parce que je me dis que demain sera meilleur avec le Seigneur. Avec lui, il y a toujours de l'espoir. Et puis, il ne déçoit jamais. C'est Dieu ma force, en fait.
Alors, vous le savez, l'Église a ouvert depuis le mois de décembre 2024 l'année jubilaire, le jubilé 2025. Comment vivez-vous en tant que fidèle catholique? Comment vivez-vous cette année jubilaire?
L'espérance ne déçoit jamais. Cette année jubilaire est bienvenue. Donc, dans mon espérance, je remets toujours ma situation à Dieu et je garde toujours cet espoir que demain sera meilleur. Et puis, voilà, je suis contente de cette année. Je continue toujours de prier, non seulement pour moi, mais plus pour les autres. Voilà, je m'accroche toujours au Seigneur.
Anne-Christelle Nekouressi, paroissienne de Notre-Dame de la Nativité d'Angré, dans l'archidiocèse d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle répondait aux questions de Françoise Niamia.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici, chers auditeurs, que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Restez branchés sur nos programmes.